Alors, dans 1 Corinthiens 10, c'est là qu'on tourne ce matin. J'aimerais vous dire que si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par hasard.
Amen.
Vous avez un rendez-vous divin. Vous dites, ouais, mais moi, ça a donné un matin comme ça. Il n'y a pas d'adonnance avec Dieu. Il n'y a pas de coïncidence. Dieu est souverain. Si vous êtes ici, c'est le rendez-vous de sa grâce, le rendez-vous de sa présence. Il veut vous rencontrer là où vous êtes. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être à l'écoute, de disposer et de répondre par la foi à ce que lui va nous montrer, d'ajouter foi. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça ce matin en introduction. On a lu le chapitre au complet et je dirais que les versets 1 à 13 sont spécialement l'objet de notre attention avec tous les événements qui sont relatés là. Mais je veux juste lire le verset 11 pour commencer. On a lu le chapitre au complet, c'est vraiment un très beau chapitre. Où est-ce qu'il y a un rappel des événements historiques qui sont arrivés avec le peuple d'Israël? Et ça dit que, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es le Dieu qui a inspiré toutes les Écritures. Et que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dépassé, ce n'est pas des histoires inventées, ni des fables, mais ce sont des événements historiques avec des vraies personnes qui ont vécu ces choses, mais avec toi, Seigneur, aussi, qui nous les a données pour nous instruire, pour mettre la lumière de ta parole sur nos vies. Et merci qu'on peut faire dans ce message le pont avec ce qui est dans le trésor ancien, comme disait notre frère, avec ce qu'on a aussi dans le trésor nouveau. Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de notre intelligence, qu'on voit toutes ces richesses merveilleuses que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'on y marche, Seigneur, qu'on s'y réjouisse. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu les rencontres pour les sauver, les rencontrer en les convainquant de leur péché, de la justice de Christ et du jugement imminent auquel ils vont faire face. Seigneur, puisses-tu avoir le plein contrôle, la direction de ce moment qu'on prend dans ta parole, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Ça nous dit, hein, c'est très simple ici, ça dit que ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et vraiment, on peut dire, bon, comme je le disais, c'est des choses réelles qui sont arrivées, mais en même temps, elles sont, si vous voulez, des images ou des illustrations de la vie chrétienne. Pas dans le sens qu'ils ne sont pas vrais, mais que ça dépasse, les événements historiques dépassent la simple, la simple facette historique, mais il y a vraiment des vérités spirituelles qui nous sont communiquées là-dedans. Et je dirais que on a dans ce passage, de façon unique et puissante, on a Jésus dans les Écritures. Et vraiment, un verset que j'aime tellement, ça parle du rocher. Puis on apprend, moi, si j'avais pas eu le Nouveau Testament, le rocher, j'aurais peut-être dit, ah ben c'est bien, il y a un rocher duquel sort de l'eau. Mais ça dit que ce rocher qui les suivait, c'était Christ. Et c'est un rocher, Christ est le rocher, il les suit, il est toujours avec nous, puis il les abreuve. Oups, il pourvoit. Et donc, on voit comment, juste avec cette image-là, on pourrait, ça serait déjà juste un message en tant que tel, le rocher, qui suit, qui abreuve. Mais voyez-vous comment il y a une richesse dans ces choses-là? Et ça va beaucoup plus loin, comme on va le voir dans le message. Mais j'aimerais, juste pour vous introduire un peu à ce qu'on va faire, on voit là-dedans, dans le fond, avec les événements qui sont là, parce que là-dedans, on peut, dans le fond, relater avec ce qui a rapport avec les événements de l'Exode, beaucoup aussi des nombres qui viraient dans le désert et tout ça. Mais on voit là-dedans un portrait de la vie chrétienne dans ses hauts et ses bas. En fait, dans toute sa simplicité, c'est toute la question de ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous allez le voir à travers le message, puis on va voir comment on peut diagnostiquer notre état spirituel à travers ces événements du passé. Mais Il y a un autre endroit où est-ce que ces événements sont relatés pour nous servir d'exemple, et c'est dans Hébreux au chapitre 4. Les versets 1 à 2 nous disent « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Puis au verset 11 du même chapitre, ça dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Les mêmes événements, même leçon. Exemple de désobéissance, certaines versions disent « incrédulité »,« unbelief ». Et je dirais que dans le même contexte, Hébreux chapitre 3, verset 19, donc juste avant le début du chapitre 4, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, toute la question de la foi, tout le message de ce matin tourne autour de la question suivante. Croire ou ne pas croire? Là est la vraie question. Et je dirais que ça vient, ou c'est cette foi vivante est le produit d'une humilité face à ce que Dieu dit. Si je vois que c'est Dieu qui parle, que c'est lui qui est en autorité dans ma vie, je veux répondre à ce qu'il fait par la foi. L'humilité engendre la foi. L'humilité reconnaît que nous ne sommes rien, que Dieu est tout, et donc on se confie en lui. Et ma prière pour ce message, c'est que tous et chacun ici répondent par la foi à ce que Dieu va lui montrer. On ne va pas en tant que tel décortiquer le passage, mais on va se servir des images qui sont illustrées là, puis ça serait pas mal long comme message, on allait voir tout ce qui est dans l'Ancien Testament là-dedans, mais vous savez que il y a des lieux qui sont symboliques dans la Bible. Par exemple, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est un lieu d'esclavage qui représente la vie des non-sauvés dans leur état adamique, morts dans leur offense et leur péché, et la mer Rouge représente le moyen de délivrance de Dieu, surnaturel. C'est pas normal qu'une mer s'ouvre de même. Donc, on voit le surnaturel et la mer Rouge, c'est la délivrance de Dieu qui représente le salut. Donc, sortir de l'esclavage par la délivrance de Dieu. Ensuite, il y a le désert. Puis, en passant, juste une parenthèse, c'est pas obligatoire le désert. Ils sont allés dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils auraient pu rentrer direct dans la terre promise. Mais bon, il y a le désert. Le désert, c'est un lieu de pérégrination, de tournage en rond, où tous, finalement, ont fini par mourir là, sauf deux qui ont cru à la parole, à la promesse, et sont entrés dans la terre promise, dans Canaan. Ce désert représente la vie chrétienne que j'appelle redondante, qui tourne en rond, où on est habitué à la défaite, puis oups, des fois, on est surpris par la victoire. Cette vie dans le désert est caractérisée par la chair. Et quand je parle de chair, pensez pas nécessairement juste aux œuvres manifestes de la chair, comme ça en parle dans Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Mais pensez aussi à la chair qui paraît bien, la justice propre, mais qui s'appuie sur soi et non pas sur le Seigneur. Tout ça fait partie de la vie dans le désert. On peut avoir une belle vie chrétienne toute bien rangée, mais on est misérable pareil, parce qu'on est dans le désert. Et le troisième lieu, c'est Canaan, la terre promise, le lieu de bénédiction où on rentre en traversant le Jourdain, une autre rivière, un autre acte surnaturel qui représente notre identification à Christ par la sanctification. C'est la vie abondante, la vie qui porte du fruit. Ils sont revenus avec quoi de Canaan? Des méchantes grappes de raisin. Pour nos amis africains qui ne sont pas habitués à cette expression méchant, ça ne veut pas dire malin, ça veut dire avec toutes que des grappes de raisin. OK, c'est ça. Cette image de Canaan, c'est la vie par la foi, celle de justement Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de victoire, où est-ce qu'on est habitué à la victoire, et des fois, oui, parce qu'il y a des combats, on va le voir, il peut arriver des défaites, mais c'est plus surprenant que c'est la norme. Maintenant, ayant dit tout cela, J'aimerais juste vous répéter un verset que j'ai dit tantôt, mais qui est important. Aussi voulons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Que ce soit pour l'image de sortir de l'Égypte ou de sortir du désert, c'est toujours par la foi. Pour sortir d'Égypte, il fallait qu'ils mettent le sang autour des linteaux, sur les linteaux de leurs portes. C'est une image du sang de Christ, de l'agneau. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas mis votre foi dans la provision de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, si vous ne l'avez pas accepté pour vos péchés, vous êtes encore pris dans l'Égypte, vous êtes encore esclaves, vous êtes encore dans vos offenses et vos péchés. Vous avez besoin d'être libéré, de passer par la main rouge de la libération du salut. Et c'est certain que si vous êtes ici, vous avez probablement d'une façon ou d'une autre entendu l'Évangile, mais vous devez y ajouter votre foi. Le juste vivra par sa foi, pas simplement celle de ses parents, de ses grands frères, grandes sœurs, mais sa foi. Et pour les enfants de Dieu, c'est la même chose. Il y a un miracle de la mer Rouge, il y a certainement aussi un miracle du Jourdain, c'est-à-dire, comme le cœur est changé, hein, le cœur de pierre est changé en cœur de chair au salut, c'est aussi un miracle que Dieu révèle à nos yeux, le Fils, pour mettre fin à nos pérégrinations dans le désert, mettre fin à cette vie redondante et qu'on puisse vivre cette vie abondante. On va regarder tout ça ensemble avec simplement trois lieux, je vous les ai nommés, mais on va les regarder plus en détail, trois lieux qui représentent trois illustrations de Christ, notre sanctification. Êtes-vous prêts? Là, je dirais pas partir, parce que ça va être un peu poche comme réunion d'église, là. Êtes-vous prêts? Restez! D'abord, la vie en Égypte. Vous allez voir, là, je vais vous décortiquer chacun des lieux, puis ça va vous aider à comprendre la signification spirituelle. La vie en Égypte, c'est le règne de moi, le soi. La chair, c'est tout ce que nous avons. Pourquoi? Parce que la Bible décrit ceux qui sont pas encore sauvés comme étant morts dans leur offense et leur péché. Ils n'ont pas encore la vie de Christ en eux. Et à cause de leur condition spirituelle, ils sont esclaves de Satan et dirigés par lui. C'est lui qui les énergise, qui agit en eux. Ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, Éphésiens 2. Écoutez maintenant Éphésiens 2, verset 1. Écoutez le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, j'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. Des fois, on pense à la vie en Égypte, c'est une vie misérable. Oui, mais c'est pas nécessairement une vie où est-ce qu'on sent notre misère. Parce que le péché amène un plaisir, une jouissance, mais pour un temps. Et il y avait du poireau, il y avait de l'ail, il y avait de la viande en Égypte. Quand on parle d'Égypte, ça ne veut pas dire que nécessairement, même si on est esclave, qu'on se sent tellement misérable. En fait, l'Égypte était un pays d'abondance aussi. C'était la grande puissance de l'époque. C'était un pays, oui, il était esclave, mais il y avait des choses. C'est pour ça que c'est tellement une énorme grâce lorsque l'Esprit du Dieu vivant, dans sa miséricorde, puis la miséricorde, c'est quoi? C'est sortir quelqu'un de sa condition misérable. C'est quand il nous convainc qu'on est misérable, qu'on sent notre misère, comme ça dit, sentez votre misère, nettoyez vos mains, pécheurs. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui fait ça, qui va nous détacher de l'amour, l'attachement que nous avons pour le péché. Lorsque Dieu brise ça, c'est vraiment sa grâce. Et c'est un appel à venir au Rédempteur, à venir à celui qui libère. Et donc, si ce matin t'écoutes puis t'es en Égypte, t'es encore esclave de tes offenses, de tes péchés, ben, pour toi, c'est un lieu où est-ce que le péché, ben, c'est la norme, c'est normal. C'est ma vie, c'est comme ça. Puis c'est aussi un lieu où le prince de ce monde dirige dans les choses de ce monde. Et si c'est ton cas, le côté sobre, c'est que Jésus, tu vas le rencontrer non comme ton sauveur, mais comme ton juge. Car il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jésus est clair. Il a parlé de Satan et dit, « Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi, Jean 14, 30. » Il n'a rien en moi. Puis aussi, ça nous dit que Satan, c'est lui qui... C'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence afin des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan est le père du mensonge. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond lorsqu'il ment. Il est menteur et le père du mensonge, puis aussi meurtrier dès le commencement. Maintenant, ça veut dire que Jésus puis Satan sont absolument incompatibles. On ne peut pas être avec Jésus et avec Satan en même temps. C'est un ou l'autre. Parce que un est contre l'autre. Et on doit prendre position. On doit décider, est-ce que je veux continuer sur cette voie qui paraît droite, mais dont l'issue est la mort, ou d'accepter la mort de Christ comme mon substitut. Est-ce que je veux subir moi-même la mort ou est-ce que j'accepte que Christ l'a vécu, l'a subi à ma place cette mort afin de me donner la vie? Écoutez ce verset. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le plus grand besoin pour quelqu'un qui est encore en Égypte, c'est de passer par la mer Rouge, la délivrance. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Et papa, et papa, t'es déjà papa, c'est juste que...
Le bébé existe.
Hein?
Le bébé existe.
C'est ça, exactement. Mais t'es le plus nouveau des papas. Un petit papa tout frais. Et donc, les papas, en tant que leaders, on est appelés à connaître Jésus-Christ, nous-mêmes, comme notre sauveur. Puis une fois qu'on le connaît, à le faire connaître. Car notre rôle dans la famille et dans l'Église, c'est d'exercer notre influence pour sortir ceux qui sont sous notre cercle d'influence, simplement en prêchant Christ, en l'élevant lui. Écoutez ce que ça nous dit dans Galates 6,14, c'est ce que Paul faisait. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et on doit aussi l'élever, comme le serpent dans le désert a été élevé, notre rôle en tant que leader, on n'a rien à inventer, on a seulement qu'à exalter Christ, lui, l'exalter, l'élever, l'Éternel, où on peut dire à nos enfants, « Tournez-vous vers l'Éternel. » OK, ça c'est Ésaïe 45, 22, où est-ce que Dieu dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Élevez Jésus-Christ. Élevez-le dans vos discours, dans votre attitude. Quand vous êtes bas, regardez à lui. C'est le meilleur exemple que vous pouvez donner à vos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de voir des papas qui sont tous capables d'avoir sans jamais avoir de problème. Ils ont besoin de voir qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des problèmes. Vers qui ils se tournent quand ils ont des problèmes. Quand la famille a des problèmes. Et donc, la mer Rouge, c'est le premier moyen de quitter le premier lieu d'esclavage pour passer au deuxième lieu, qui est temporaire, j'aimerais dire ce matin, qui est un passage, qui n'est pas une destination finale. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un, moi, qui a prévu de prendre des vacances dans le désert du Sahara. Bon, peut-être, OK, il y a des déserts qui ont des tricheurs. Là. Si vous allez à Phoenix ou si vous allez au Nevada, c'est des déserts, on ne serait pas supposé de vivre là. Mais tu sais, ils ont fait des villes artificielles là-dedans parce que, en tout cas, c'est ça. Mais désert du Sahara, j'en connais pas bien gros qui ont décidé d'aller prendre des vacances là-bas parce que c'est pas un lieu de vie permanente. Mais c'est le deuxième lieu que j'aimerais qu'on considère, la vie dans le désert. Un autre point avant de développer là-dessus, c'est possible pour quelqu'un qui vient de sortir de l'Égypte d'aller et de rester directement en Canaan parce que c'est le plan original de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire, mais je vais prendre le temps de l'expliquer parce que je pense que beaucoup peuvent s'identifier à ce qu'on va voir ici avec la vie dans le désert. La vie dans le désert, c'est un lieu où l'Égypte est en moi. Avant, c'était moi qui étais en Égypte, dans l'Égypte. Mais là, c'est l'Égypte qui reste en moi. Et là aussi, il y a une expérience de vie misérable, redondante et de défaite. Est-ce quelqu'un qui a lu le livre des Nombres il n'y a pas longtemps? Mais quand on lit le livre des Nombres, on se rend compte, oh mon ami, c'est pas une vie à laquelle on doit aspirer. En fait, c'est l'expérience désagréable, mais j'aimerais dire nécessaire, de Romains 7. Pour le chrétien, là, c'est quelqu'un qui a passé par la mer Rouge. Okay? Il est délivré, c'est un enfant de Dieu, mais je dis que c'est nécessaire, pourquoi? Parce que nous aussi, on doit sentir notre misère pour nous amener à dire comme Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et c'est ça qui a amené Paul dans Romains 8, « La vie par l'Esprit », comme on va le voir, non seulement dans le troisième lieu, mais aussi dans le message après-midi. Mais ce lieu-là, désagréable, ce passage nécessaire, où est-ce qu'on sent notre misère qui nous amène à demander qui, on cherche quelqu'un, on ne cherche pas quelque chose, on réalise, on se rend compte de l'esclavage de moi-même. J'ai pas besoin d'avoir l'oppression extérieure, comme en Égypte, mais moi-même, je peux être esclave de mes propres passions, de mes propres convoitises. Et c'est pour ça que c'est un lieu aussi peu agréable à vivre. Et ça nous montre notre propension, la propension de notre nature aux voies de la chair, à l'immaturité, à l'incrédulité, à l'orgueil. D'où le ministère béni du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 18, ça nous dit, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Seigneur ne nous laisse pas dans notre misère nous vautrer. Le Saint-Esprit forme Christ dans ses enfants, puis nous convainc de notre besoin de Christ. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est nécessaire. C'est, Romains 7, c'est se rendre compte que la loi est là juste pour me montrer comment j'ai besoin de Christ. Que la loi, elle est bonne parce qu'elle me montre comment je suis misérable sans Christ. C'est ça l'idée. Écoutez d'ailleurs le rôle de la loi, on l'a dans Galates 3:24. Or, la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'est vrai pour un non-sauvé, c'est aussi vrai pour les sauvés. Le ministère de la loi dans notre vie nous conduit à Christ. Maintenant, ce lieu-là, je dirais, fait partie du processus de croissance, avec des hauts, des bas, les aléas du quotidien, par lequel le Seigneur nous montre et nous convainc de la nécessité absolue d'avoir Jésus comme notre Sauveur qui nous délivre de la puissance du péché et comme notre Seigneur duquel la grâce règne. Le péché, là où il abonde, la grâce règne, la grâce surabonde. Écoutez Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le règne de la grâce brise la puissance du péché dans nos vies. Et le désert est le lieu où est-ce que le Seigneur nous fait rendre compte de notre absolu besoin. Il brise notre autosuffisance. Il brise notre tendance à se confier en nous-mêmes. Parce que même si le règne de Satan, du péché, ont été brisés, c'est un fait, hein? Ça nous dit dans Romains 6:6, « Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Puis même Satan aussi a été vaincu dans Colossiens 2, 14 et 15. Ici, ça dit « Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui nous libère du péché et de Satan. Et le désert est un lieu où leur influence n'est plus ce qui nous contrôle, mais où la chair essaye de dealer avec. C'est ça le problème. C'est qu'on essaye de dealer avec ses ennemis, avec les mauvaises armes. N'est-ce pas que ça dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles? Mais dans le désert, on combat la chair avec la chair. C'est voué à l'échec. D'où l'expérience sordide de Romains 7. On prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais cette autre loi qui est là dans nos membres, au moment où est-ce qu'on veut faire le bien, le mal est attaché à nous. Prenez pas à s'en débarrasser par nous-mêmes. Et Dieu a besoin de nous briser pour ça, pour nous amener, pour former Christ en nous. Et lorsque ça prend place, et ça peut prendre plus ou moins de temps, là. Certains ont passé, je pense que j'avais pas passé 40 ans dans le désert. Mais ça se peut. Il y a des chrétiens qui ont passé 40 ans dans le désert, 30 ans dans le désert. Mais c'est pour nous conduire à notre Jourdain. Le passage de la vie redondante du désert à la vie abondante de notre identité en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On passe d'une vie où non seulement on bénéficie de Christ dans sa mort, mais aussi que nous bénéficions du fait que nous sommes morts avec Christ. Non seulement Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. C'est la fin de la tromperie, comme on voit dans Galates 3:3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? C'est la fin de ça. Et c'est ce qui nous amène au troisième lieu ce matin, la vie en Canaan. La terre promise. C'est le règne de Jésus-Christ qui met fin au règne de soi. Écoutez bien ce que ça dit dans Romains 6, 17 et 18. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. On est esclave de Jésus-Christ, et ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est ça la seule liberté. C'est le seul esclavage qui est la liberté. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette vie en Canaan, c'est l'état de maturité spirituelle, l'idéal divin de la rédemption, l'accomplissement des promesses divines dans ses enfants qui humblement marchent par la foi. Et c'est ce que produit la vérité dans l'amour. C'est ce que l'œuvre de Dieu a pour but d'accomplir lorsqu'elle travaille dans notre vie. Et là-dessus, sur la révélation, savez-vous que la révélation biblique, elle est progressive. Imaginez-vous si Adam et Ève s'étaient fait tout donner au début. Je pense que ça aurait été la fin de l'humanité. Les deux seraient morts d'une crise cardiaque. Imaginez-vous, là, déjà que Jean s'est fait donner dans l'Apocalypse, il y avait de la... Puis Daniel aussi, il y en a qui avaient des révélations comme ça, puis il en tombait en défaillance. Fait que non, c'était... Dieu révèle progressivement les choses dans sa parole. Et on peut dire dans ce sens-là que l'Ancien Testament... C'est un peu comme l'enfance, l'état d'enfance. Les évangiles et le livre des actes, un peu la fougue de l'adolescence, la transition. Puis, la pleine révélation du mystère de l'Église et de notre union en Jésus-Christ nous est donnée dans les épîtres. C'est l'âge adulte, la maturité spirituelle. Mais Canaan, c'est d'arriver pleinement à cette maturité spirituelle. D'ailleurs, on voit ça, c'est le but. Les écrivains divins font part de cette maturité spirituelle qui est la norme pour les chrétiens. Sinon, t'es pas normal. Puis écoutez, à ce sujet-là, Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La carence de beaucoup de familles chrétiennes, églises, milieux chrétiens s'explique par leur ignorance, leur négligence aux vérités de notre identité en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'ils connaissent pas la Bible, c'est pas parce qu'ils vont pas à l'église, qu'ils sont pas exposés à la vérité. Mais c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils sont en Jésus-Christ, ou pour le dire autrement, ce que Dieu a fait d'eux en Jésus-Christ. Et ça donne malheureusement beaucoup de gens qui sont comme des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. N'est-ce pas qu'on a vu ça? Là, j'ai juste l'expression « across the board ». On a vu ça en long puis en large dans les deux dernières années. C'est triste. Pourquoi? Parce que c'est ne pas être fondé sur le fondement. Et Dieu nous l'a donné. Il l'a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La vie en Canaan, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants, c'est le plan divin, le plan rédempteur s'accomplit dans ça. Et l'ironie souvent, c'est que beaucoup de gens, des fois, qui exaltent leur connaissance, leur expérience spirituelle, sont souvent les plus immatures. C'est pas la connaissance, c'est pas les expériences qu'on a pu avoir, mais c'est Christ en nous. C'est pas nous, mais Christ en nous. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est de Christ, puis il nous l'enseigne. Je vais vous donner en rafale quelques passages sur le rôle du Saint-Esprit, le Consolateur. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, il nous rappelle tout ce que Jésus a dit, il rend témoignage de lui. Ça, c'était Jean 14, 26, Jean 15, 26, puis écoutez maintenant 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ça, la vie en Canaan, c'est une vie, on va le voir après-midi avec c'est quoi marcher par l'Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous dirige, c'est lorsque le Saint-Esprit a le contrôle. Et la plénitude du Saint-Esprit, on peut faire l'équivalent avec l'idée d'être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que ça, c'est christocentrique. Parce que Jésus-Christ est la vie chrétienne. Avez-vous remarqué comment le Saint-Esprit, il nous amène toujours à Jésus-Christ, il nous amène toujours à sa vie, à ses instructions, à ce que lui, il est, à ce que lui a fait. Puis, Jésus-Christ est la vie chrétienne et l'Esprit de Jésus-Christ est l'Esprit de vie. Il nous conduit dans cette vie où Jésus est le sens et l'essence même. C'est tellement bien exprimé par Paul. Christ est ma vie. Vous voulez parler de ma vie? Vous le résumez avec un nom, Christ. Mais, et il y a un mais, dans cette vie de victoire, j'ai dit tantôt, une vie où est-ce qu'on est habitué à la victoire et surpris par la défaite, ne pensons pas qu'il n'y a pas des batailles. Au contraire, Canaan, on le voit, c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de batailles. C'est un lieu de conquête, mais il y a beaucoup de batailles parce que on est en territoire ennemi. On est dans ce monde comme n'étant pas de ce monde, et même si Christ est en nous et qu'il vit, comme Christ est venu, il est venu dans un monde hostile, le chrétien spirituel qui vit en Canaan doit s'attendre à ce qu'il y ait des combats dans sa vie. Parce que là, il attire l'attention de l'ennemi, parce qu'il fait des avancées pour le Seigneur, puis il est en train de faire des avancées dans le terrain de l'ennemi. Les chrétiens qui sont en Canaan doivent s'attendre à des assauts de Satan, des découragements, de l'anxiété, de la peur et différentes manifestations de Satan qui veut nous cribler comme le froment. Prendre des choses dans notre vie puis les laisser séparer pour qu'on soit perplexe, pour qu'on soit un peu comme Asaph dans le psaume 73 à regarder les méchants qui prospèrent puis que notre pied est sur le bord de glisser. On doit s'attendre à ça. On doit en être conscient. On ne doit pas se laisser décourager par ça et dire ah, « je n'irai pas en Canaan parce que je ne veux pas me battre ». Non, parce que Dieu est notre victoire. Et on n'ignore pas les desseins de Satan. Mais comme je disais, on se bat avec des armes spirituelles, pas des armes charnelles. Savez-vous, dans le contexte de ce que ça dit sur ne pas ignorer les desseins de Satan, puis ça aussi, on va en parler après-midi. Écoutons, on dirait que c'était pas prévu, mais on dirait que moi, je fais la promotion de mon message d'après-midi à matin. Mais ça dit qu'on ne laisse pas l'avantage à Satan sur nous car nous n'irons pas ses desseins. Dans le contexte, c'est sur le pardon. Si nous avons pardonné quelqu'un, nous le pardonnons devant le Seigneur parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Quand on ne pardonne pas, quand on garde de l'amertume envers quelqu'un puis qu'on s'endurcit dans notre cœur, on laisse à Satan du terrain. On va voir ça après-midi. Mais c'est le genre de façon par lesquelles on combat puis on triomphe par le pardon, par la douceur, par l'amour, par la vérité, par ces armes qui sont puissantes en Dieu et qui renversent les forteresses. Amen. Et en plus de ça, bonne nouvelle, oui, notre adversaire est un lion rugissant, mais il rugit parce que c'est la seule façon qu'il peut faire peur, parce qu'il est déjà vaincu. Amen. On l'a vu tantôt, il a été publiquement humilié à la croix, lui puis toute son armée. Et donc, on peut avancer dans la victoire, dans la conquête, avec les moyens et la sagesse de Dieu. Et là, je veux juste prendre un temps pour regarder un peu avec Josué. Puis là, je vous le relate, ça serait long encore d'aller dans tous les détails. Mais c'est significatif que la première conquête dans le pays de Canaan, c'était Jéricho, Jéricho. Connaissez-vous la chanson? Il faut que tes murs tombent. Jéricho, et savez-vous quoi? Ça n'avait rien à voir avec l'opposition qu'il avait connue dans le désert. C'était complètement nouveau. C'était pas une armée qui arrivait, c'était une ville dont il faisait le tour. Puis le moyen pour la vaincre n'avait rien à voir avec la sagesse ou la force humaine. Pas en tout. N'est-ce pas que le Seigneur dit ça dans sa parole? Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est comme ça que Dieu nous apprend à conquérir. Il commence avec un Jéricho. Pour nous enseigner la philosophie qui nous est donnée dans Proverbe, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Et même si on conquérit notre Jéricho, oh, faut pas s'appuyer même après sur notre sagesse parce que cette conquête peut rapidement tourner au vinaigre, comme c'est arrivé avec la ville d'Haï. Qu'est-ce qui est arrivé là? Écoutez ce qu'un certain monsieur nous a dit. « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéar, 200 sicles d'argent, un lingot d'or d'un poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Avec Achan, on apprend comment le péché peut nous faire retomber. Mais Dieu donne la victoire lorsqu'il reprend le contrôle, lorsqu'on s'appuie sur lui. Et l'épisode d'Haï nous le rappelle parce que ça nous dit dans chapitre 8, verset 1. Après tout ce qui est arrivé avec Achan, l'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Il y avait à apprendre que la vie en Canaan, c'est une vie de dépendance constante. N'est-ce pas qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils avaient combattu Jéricho, je pense qu'ils avaient pris confiance en eux. Puis ils avaient peut-être négligé la séduction du péché, le problème du péché. Et qu'est-ce que Josué a fait quand c'était temps de combattre cette petite ville? Parce qu'il venait de s'attaquer à ce qui représente même le pays de Canaan dans toute sa force puis tout ça. Puis là, juste une petite ville, on n'en verra pas tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Il s'est appuyé sur sa propre sagesse. Puis Dieu leur aurait dit qu'il y avait du péché dans le camp. Puis en passant pour nous, on doit constamment faire ça. On ne sait pas ce qui peut nous guetter. On est une église, on ne sait pas ce qu'il peut avoir dans le camp. Il y a peut-être des choses qui sont là pour nous. Il faut constamment qu'on marche en s'appuyant sur Dieu. On ne peut pas dire, hey, c'est le fun, regarde ce qu'on a fait depuis, mettons, le début de la pandémie. Wow, on est-tu bon, puis on se pète les bretelles. Ne tombons jamais. On doit être reconnaissant pour la grâce de Dieu, mais on doit toujours s'appuyer sur Dieu pour le prochain pas qu'il nous demande à faire. Parce qu'on dépend totalement de lui pour ça, même si ça paraît pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la délivrance vient de l'Éternel. Et de lui seul, n'est-ce pas qu'on chante la foi et la victoire. Et la foi, je devrais dire la foi en Christ, parce qu'on peut mettre notre foi en nous-mêmes, en notre sagesse et tout ça, mais la foi en Jésus-Christ. Ça m'amène à conclure avec une simple question. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entendu aujourd'hui? Ou pour le remettre dans les mots dans lesquels on a commencé. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Si vous avez entendu aujourd'hui des belles choses puis des belles histoires, j'espère que c'est pas ça qui vous satisfait. Parce que ça ne va vous servir à rien si vous n'y ajoutez pas votre foi. Puis ça veut dire quoi, ajouter sa foi? Si Dieu t'a montré des choses que toi, tu as besoin de mettre en règle avec lui, peut-être qu'il t'a montré que tu n'étais pas sauvé, que tu es encore en Égypte, que tu as besoin de passer par la mer Rouge, d'être délivré. Il y a un seul agneau de Dieu qui a versé son sang sur lequel tu dois mettre le sang sur les linteaux de ta vie. C'est Jésus-Christ. Ce message avait une bonne application de salut, surtout au début. Peut-être que le Seigneur t'a montré que tu es encore en train de tourner en rond. Tu n'es pas dans la vie abondante, tu es dans la vie redondante. Tu as besoin de passer par le Jourdain où est-ce que tu t'identifies à Christ dans sa mort, dans sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais vous dire que ce soit un cas ou l'autre, la réponse est à celui qui comble tous les besoins, est auprès de Dieu, qui sauve, qui délivre. Il sauve les perdus, il sauve son peuple du péché qui l'enveloppe si facilement. Allons ensemble à ce Dieu vivant. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et dans les versets, ça a été apporté ce matin. Seigneur, on ne veut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, car la délivrance vient de toi. Si quelqu'un est ici, puis qu'il ne te connaît pas, puis qu'il pense qu'il est correct, Seigneur, que tu le convainques qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de, ben peut-être, mais vraiment, c'est avec toi, tout est et oui, oui. Et non, non, il n'y a pas d'entre-deux. Seigneur, puisses-tu convaincre s'il y a quelqu'un qui est sur la clôture que la vie n'est pas faite pour être sur une clôture, mais il faut prendre position. Pour tes enfants aussi, Seigneur, on te prie. Oh, Seigneur, notre frère l'a amené, on croit, mais viens au secours de notre incrédulité. Si facilement, on peut tomber dans les pièges de notre propre chair, de Satan, du monde. Ah Seigneur, on vient se réfugier auprès de toi, qu'on puisse vivre cette vie en Canaan, de joie, de liberté, de paix. Oh, pas sans combat, pas sur un petit nuage, mais cette vie où est-ce qu'on expérimente ta grâce, et c'est notre joie, notre paix, notre plus grande liberté, Seigneur. Merci que tout ça, on l'a en Jésus-Christ. On te prie de faire ton œuvre, de continuer, Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants et d'amener ceux qui ne te connaissent pas encore au pied de la croix. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.